Voici à présent l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Ravi de vous retrouver, bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Alors on en parle depuis un certain nombre d'heures. Il y a tout juste un an, le 17 novembre, 300 000 personnes défilaient dans les villes et les villages de France, révoltées contre la taxe carbone, des mois de contestation et un an plus tard, certains toujours déterminés.
J'y crois encore et j'espère que les Français vont se réveiller et qu'on va descendre tous dans la rue le 5 décembre, parce que le 5 décembre, il y a une grève générale.
Alors on fait le point avec vous Frédéric Dabi, enquête à l'appui, enquête IFOP, de quel œil les Français regardent-ils les gilets jaunes en novembre 2019 ?
Eh ben, l'œil est toujours bienveillant, Wendy, pour cet événement qui est jugé comme le plus important du quinquennat d'Emmanuel Macron. Une enquête récente IFOP fiduciale pour CNews montre qu'il y a une majorité de Français, 52%, qui éprouvent soutien et sympathie.
C'est pas mal,
C'est pas mal, c'est moins élevé qu'au début du mouvement, on était à 72%. C'est inférieur à d'autres mobilisations davantage soutenues par les Français quand on s'intéresse aux urgentistes, aux conditions de vie des policiers. Mais c'est non négligeable pour le mouvement social le plus long de la 5e République, qui n'a jamais été un mouvement de masse. Même dans les premiers actes, il y avait 300 000, 400 000 personnes, jusqu'à devenir presque virtuel ces derniers mois. Oui. C'est absolument inédit.
Ça veut dire que les Français font toujours la part des choses entre les casseurs, les irréductibles qu'on a vus, et puis les gens de bonne foi, comme disait le préfet tout à l'heure.
Ça a été une véritable constante dans le regard des Français sur ce mouvement. Ils ont toujours opéré une dissociation entre les actes de violence jugés inadmissibles, quand même ils étaient commis par des gilets jaunes, et ceux qui étaient au cœur des revendications. Symboliquement, dans notre série d'enquêtes, au moment où le soutien a été le plus fort, c'est après le 1er décembre, moment du drame, où l'Arc de Triomphe avait été abîmé. Tout simplement parce que les revendications des gilets jaunes résonnent chez beaucoup de Français, bien au-delà des taxes sur les carburant qui avait été le détonateur de ce mouvement.
L'étincelle.
C'est toute une série de choses. C'est la crainte du déclassement, c'est le travail qui paye mal, c'est le pouvoir d'achat, et plus largement le sentiment de ne plus maîtriser son destin.
Oui, et ce qui met toujours en colère aujourd'hui dans cette société fracturée où les mobilisations sociales sont nombreuses. On entendait cette citoyenne appeler à la manifestation le 5 décembre. C'est un mouvement social qui peut amener à la convergence des luttes. On s'inquiète dans vos études de cela un peu, Frédéric ?
Alors clairement, les Français le redoutent ou certains plus à gauche l'espèrent. Oui. C'est vrai qu'il y a un horizon le 5 décembre où avec ce mouvement plutôt dans les transports contre la réforme des retraites. On a entendu des gilets jaunes vouloir peut-être s'y agréger. Il y a un malaise du côté des étudiants après le drame qu'a connu un étudiant à Saint-Étienne. C'est vrai qu'on est dans une situation relativement électrique. Il y a un regard de plus en plus social ou antisocial du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au sujet qui provoque le plus de la colère chez les Français, c'était une enquête IFOP Marianne il y a une quinzaine de jours, ce ne sont pas les attentats terroristes, ce n'est pas le chômage de masse, c'est la question du pouvoir d'achat, le fait que des salariés ne parviennent pas à boucler leur fin de mois, et puis la situation de précarité avec, en plus, en toile de fond, cette réforme des retraites qui est particulièrement anxiogène parce qu'on sent les Français ont majoritairement le sentiment qu'ils vont y perdre.
Voilà pour le premier sujet du jour. Frédéric Dabi, jaune comme gilet jaune, d'accord, et comme le maillot jaune, celui que Poulidor n'aura jamais revêtu pour ce qui concerne le Tour de France, mais qui restera l'un des plus grands cyclistes français, l'un des sportifs préférés du public. Écoutez, Poupou.
Les enfants, ils viennent me voir. C'est toi, Poupou ? Ça fait plaisir, mais tais-toi. C'est toi, Poupou ? Mon papy m'a parlé. C'est toi qui faisais toujours deuxième. Voilà. Mitterrand, quand il a été battu pour la deuxième fois, la présidente de la République, on a dit, c'est le Poupou de la politique. L'autre jour, j'ai eu la visite d'un gars qui fait de la pétanque. Il est toujours deuxième. On l'a baptisé le Poulidor de la pétanque. À l'école, il y a un gars même. Mon papy m'a baptisé Poupou parce qu'il est deuxième à l'école. Tous les jours.
Voilà. Le pauvre, ce serait bien d'oublier un petit peu cette caricature.
C'est déjà très émouvant d'entendre cette voix. Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être oublier ce perdant magnifique pour rappeler que c'était un champion doté d'un très grand palmarès, champion de France, vainqueur quand même de cette étape du Tour de France, même s'il n'a jamais porté la tunique jaune. Deux tours Paris-Nice, le Dauphiné libéré. Mais c'est vrai que ce palmarès exceptionnel, quand même, a été effacé dans la mémoire des Français par ses échecs sur le Tour de France. D'autre part, et ça c'est plus l'homme de l'IFOP qui parle, jamais les Français, pour un sportif, ont autant préféré l'homme aux champions. C'est pour cela que Raymond Poulidor a été classé très longtemps dans le top 50 des personnalités IFOP JDD. Il a fait mentir un adage, une règle non écrite de ce classement qui était la suivante. Un sportif prenant sa retraite, quittait très rapidement ce classement.
Clairement.
C'était le cas pour Michel Platini,
oui.
C'était le cas pour Alain Prost,
mm-hmm.
C'était le cas pour Bernard Hinault, lui qui a gagné si souvent le Tour de France 5 fois, et à la différence de Raymond Poulidor, qui lui n'avait jamais été en jaune, Bernard Hinault a vite quitté le top 50, Raymond Poulidor y est resté extrêmement longtemps.
Ça, c'est incroyable, vous qui avez fait beaucoup de salons du livre avec lui, Fabien Lecoeuf, vous avez constaté combien il attirait la sympathie, l'engouement des Français.
Ah mais, et les familles,
familles
françaises. C'est-à-dire que tout le monde venait voir, tout le monde l'aimait, l'éternel deuxième qui était resté numéro 1 dans le cœur des Français.
Ouais, vous l'aviez rencontré, Frédéric Dabi?
Oui, je l'avais rencontré il y a 2 ans sur une étape du Tour de France, pas loin de Lourdes, de mémoire, et j'avais été frappé, on ne se connaissait absolument pas, il n'y a pas de raison de me connaître, mais par sa simplicité, sa chaleur et puis sa passion.
J'aime bien ce que disait Christian Laborde chez Christophe au-delà de cette semaine. Poulidor, c'est aussi la France des toiles cirées et des cuisines. C'est un peu cette authenticité française aussi.
Ah, et c'est avec ce type de critères de qualité reconnus par les Français qu'on perce dans le cadre du top 50. On peut dire que Jacques Anquetil, son meilleur ennemi, suscitait une proximité admirative. On admirait le champion, on ne s'intéressait pas vraiment à l'homme, alors que Raymond Poulidor, c'était cette proximité identificatoire. Tout le monde pouvait s'identifier à lui. Et ce n'était pas qu'un besogneux, c'était un champion.
Merci beaucoup Frédéric Dabi pour votre œil. On vous retrouve vers 19h30 la semaine prochaine sur Europe 1. Merci beaucoup pour l'IFOP aussi. Dans un instant
Une semaine en Europe.
Voilà, on va vous a sélectionné quelques beaux moments de l'antenne. Et puis l'interview de Philippe Legrand pour vous servir. Aujourd'hui, l'académicien Jean-Marie Roire. À tout de suite.